Radio Kapi. Au Kasaï central, les Bayanda dénoncent les difficultés qu'ils rencontrent pour acheminer leurs marchandises vers Kananga. Le mauvais état de la route et les multiples barrières illégales érigées tout au long de cette route, selon eux, sont à la base de leur calvaire. Le gouvernement a recommandé les renforcements progressifs du financement national de l'éducation, l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. C'était lors de la clôture hier à Kinshasa du segment politique de haut niveau consacré au financement de l'éducation. L'invité de ce journal est le docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital tertiaire Jason Sendwe de Lubumbashi. Il encourage la consultation prénatale et le respect du calendrier vaccinal en faveur des enfants en RDC. Ceci permettra, selon lui, de renforcer leur système immunitaire et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal parlé du matin. Au Kasaï central, les transporteurs à vélo, communément appelés Bayanda, dénoncent les difficultés qu'ils rencontrent pour acheminer leurs marchandises vers Kananga. Ils pointent du doigt, notamment, le mauvais état de route des dessertes agricoles et la multiplication des barrières illégales sur leurs itinéraires. Pourtant, ces transporteurs jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement de la ville en produits de première nécessité en provenance des territoires. Ils appellent les autorités provinciales à intervenir pour améliorer leurs conditions de circulation. C'est un reportage signé André Katende Ngalamurume.
Les transporteurs à vélo assurent une grande partie du ravitaillement des Kananga en produits de première nécessité tels que le maïs, le manioc et la braise. Certains parcourent des longues distances pour atteindre la ville, mais sur le terrain, ils se heurtent à plusieurs obstacles, routes en mauvais état et barrières illégales érigées soit par des militaires, soit par des habitants de certains villages. François Mbouyi, en provenance de la mission Tchoukoula dans les territoires de Dibaya, témoigne de la souffrance qu'ils endurent.
Premièrement, la route est dans un état critique. Dans presque chaque village, il y a une barrière érigée par des jeunes qui disent assainir la route. Pour passer, vous devez laisser 500 ou 1000 francs congolais. À la rivière Lobi, il y a aussi une barrière tenue par des militaires. Nous sommes obligés de donner 2000 ou 1500 francs congolais à l'aller et les mêmes montants au retour.
Face à cette situation, les transporteurs à vélo demandent aux autorités provinciales de réhabiliter les routes de dessertes agricoles et de supprimer les barrières illégales qui freinent l'acheminement de marchandises vers Kananga. Kananga, André Katendenga Lamulume, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ce temps, la tension monte chez les mototaximens opérant sur l'axe Walikale-Goma. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestation arbitraire de leur porte-parole Amani Bitaya Lucien, détenu depuis plus de deux semaines à la prison centrale de Walikale et exige sa libération. La corporation des transporteurs à moto estime que cette arrestation serait liée à des dénonciations répétées des barrières illégales où les motards disent être régulièrement rançonné. Le point de la situation avec Bernadette Nyangui.
Selon le membre de la corporation des mototaximens de Walikale, Amani Bita Lucien a été placé en détention le 15 avril 2026 à la prison centrale de Walikale. Entendu par les autorités judiciaires le 23 avril, une enquête a été ouverte. Pour les motards, cette interpellation serait liée aux propos tenus par leur porte-parole lors d'un rassemblement de sensibilisation le 15 avril au centre de Walikale. Ce jour-là, alors que la rencontre portait notamment sur la discipline des motards et la bonne gestion des biens de commerçants, Amani Lucien avait également dénoncé les multiples tracasseries dont seraient victimes les mototaximens. Il avait particulièrement pointé du doigt l'existence de dizaines de barrières sur le tronçon Walikale-Masisi où les motards affirment être systématiquement soumis à des pratiques de rançonnement. Les membres de la corporation soutiennent que l'ordre d'arrestation aurait été donné par le comité territorial de sécurité. Toutefois, malgré nos démarches, aucune réaction officielle de l'administration du territoire de Walikale n'a pu être obtenue sur cette question.
Ici à Kinshasa, les tomates se font de plus en plus rares sur les marchés. Pourtant, très consommées dans les ménages, ce produit est devenu difficile à trouver ces derniers jours. Cette rareté s'accompagne d'une hausse significative des prix, suscitant l'inquiétude de nombreux consommateurs. Une tomate qui se vendait autrefois à 500 francs congolais coûte désormais 1500 voire 2000 francs congolais. Reportage signé Joyce Masanka.
Au marché Gambela, par exemple, le consommateur rencontré sur place affirme qu'il est désormais difficile de s'en procurer en raison de la pénurie observée ces derniers jours.
J'achète les tomates, mais les tomates en question sont très chères parce que ce n'est pas sa période. Lorsque nous sommes en période de tomates, les tomates coûtent moins cher, de 500 francs, 1000 francs. Mais en ce moment, une tomate de 500 francs est trop petite. Celle de 200 francs n'existe même pas. Les prix d'une bonne tomate commencent de 1000 francs, 2000, 3000 francs. Et pour avoir toute une assiette de tomates, c'est à 10 000 francs.
Du côté de vendeurs, cette pénurie est expliquée par des facteurs saisonniers. Avant, nous recevions beaucoup de tomates chaque jour. Mais maintenant, les quantités ont diminué. Parfois, nous restons une journée entière sans stock suffisant. Les prix ont aussi augmenté et les clients se plaignent beaucoup. Face à cette situation, vendeurs comme consommateurs appellent à une amélioration rapide de l'approvisionnement en tomates sur le marché de Kinshasa, afin de stabiliser les prix et de soulager les ménages.
Restons dans la capitale. L'institution des microfinances Procfin a organisé la présentation officielle de son rapport pilier 3 pour l'exercice 2025 ce jeudi 30 avril à Kinshasa. Un signal fort envoyé dans le secteur de la microfinance dans un contexte où la confiance du public et la rigueur financière sont devenues indispensables. Ce document stratégique permet de mieux comprendre sa solidité financière, sa gestion des risques ainsi que ses perspectives. Cette publication est conforme aux exigences de la Banque centrale du Congo qui vise à renforcer la transparence et la discipline du marché. Reportage Nancy Atambo.
Prenant la parole, le directeur financier Matadi Nkoko Aubin est revenu sur les performances réalisées en 2025.
Les facteurs qui expliquent cette performance, c'est plusieurs piliers, notamment la rigueur que nous avons mise dans le traitement des dossiers de crédit, les sérieux que nous mettons dans la relation que nous avons avec notre clientèle. Nous avons aujourd'hui un total bilan de plus de 70 millions de dollars, donc nous avons les ressources qu'il faut.
Du côté de la gestion des risques, l'accent est mis sur la maîtrise du portefeuille.
Nous avons mis en place le système des trois lignes de défense. Il y a le contrôle des premiers niveaux, assuré par les opérationnels, le contrôle des deuxième niveaux, qui est détaillé d'une manière contrôle permanent, gestion des risques ainsi que la conformité. Et après, il y a le contrôle mais il y a des troisième niveau qui est chapeauté par ma direction.
La direction de contrôle elle fixe le cap pour les années à venir.
L'institution va maintenir sa croissance dans le respect des normes et de nos procédures internes. Nous avons des lois et des réglementations à respecter auxquelles nous devons nous conformer. Nous avons mis des politiques et procédures qui vont nous aider dans la gestion de risques.
Avec cette publication, Procfin SA confirme sa volonté de renforcer la confiance et de s'imposer durablement comme un acteur solide du secteur de la microfinance en RDC.
Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a clôturé ce jeudi 30 avril le segment politique de haut niveau consacré au financement de l'éducation après 3 jours de travaux. À cette occasion, il a réaffirmé son engagement en faveur d'un système éducatif plus inclusif et plus performant. Représentant la première ministre Judith Suminois, le vice-premier ministre en charge de l'économie Daniel Moukoko Samba a souligné un écart de financement structurel estimé entre 500 et 900 millions de dollars par an, appelant à une mobilisation accrue pour transformer durablement le capital humain congolais. C'est Forum Paca.
Durant ces assises, les voix des apprenants se sont fait entendre à travers un plaidoyer direct. Ils ont plaidé pour un enseignement de qualité accessible à tous. Prenant la parole, la ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou a rappelé que l'éducation est un droit fondamental garanti par la Constitution et un levier essentiel de justice sociale, de paix et de développement.
La gratuité est un acquis irréversible, mais pour s'étendre, elle doit être soutenable. Cela implique de mieux planifier, mieux équiper et mieux financer. Et surtout, de replacer l'enseignant au centre. Investir dans l'enseignant c'est garantir la qualité des apprentissages.
De son côté, Daniel Moukoko Samba a néanmoins salué les avancées réalisées, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et les réformes engagées, tout en soulignant un écart des financements.
Les orientations dégagées dépassent la seule ingénierie sectorielle. Elle dessine l'architecture du capital humain dont notre nation a besoin pour conquérir sa souveraineté économique, diversifier ses chaînes de valeur et tenir son rang dans la compétition régionale et mondiale.
Au terme de travaux, plusieurs recommandations ont été reformulées, notamment le renforcement progressif du financement national de l'éducation, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire.
Éducation toujours, la fête des enseignants s'est clôturée en beauté hier jeudi 30 avril dans la ville de Matadi, au Congo central, où la division provinciale du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a organisé une journée culturelle. Plusieurs autorités de la ville et personnels œuvrant dans le secteur de l'éducation ont pris part à ce programme. Élise Kavira pour le reportage.
Tout a commencé par une messe d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Ensuite, la représentante du prophète Matadi 1, Lisette Tendo, a pris la parole pour saluer la résilience et l'engagement des enseignants du Congo central, malgré les conditions de travail parfois difficiles.
Nous célébrons votre engagement, votre résilience, malgré de nombreux défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Former les esprits, encadrer la jeunesse, transmettre les valeurs, telle est votre noble mission et elle mérite reconnaissance et respect.
Pour sa part, le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a tenu à rappeler aux travailleurs du secteur éducationnel l'importance d'apprendre le Kikongo aux élèves tel que recommandé par le gouvernement congolais depuis 2009.
Nous sommes au Congo central, nous n'allons pas tolérer que nos enfants qui vivent ici ne puissent pas connaître la langue des milliers où ils vivent. Fournissez cet effort d'apprendre le Kikongo à nos enfants qui sont à Matadi surtout.
Pour finir, les élèves des différentes écoles représentées à cette activité ont agrémenté ces moments par des défilés, scénettes et concours éducatifs. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Établi par l'ONU en 2018 et célébré chaque année le 24 avril, la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix promeut le dialogue, la coopération et le droit international pour résoudre les conflits. Ce jeudi 30 avril, le réseau des jeunes communicateurs de la RDC a organisé une conférence débat au Town Hall de la MONUSCO dans la concession UTEX Africa commune de Ngaliema à Kinshasa, une activité qui a réuni experts, autorités et jeunes autour des enjeux de la paix en République démocratique du Congo. Reportage Gloriana Lepeya.
Les différents intervenants ont au cours de cette rencontre sensibilisé les jeunes sur leur rôle dans la consolidation de la paix et les ont appelés à s'impliquer davantage dans les dynamiques citoyennes et politiques. Maître Eddy Yav, chargé d'études et expert en jeunesse, paix et sécurité, a souligné l'importance du multilatéralisme dans un pays comme la République démocratique du Congo, notamment en raison de ses interactions avec les pays voisins et des enjeux régionaux de sécurité.
Ce multilatéralisme-là éveille la conscience de tous parce que nous partageons les problèmes communs. L'ennemi qui s'est battu contre nous se bat aussi contre le Burundi, se bat contre aussi d'autres pays. Donc, pour autant que nous partageons les mêmes problèmes en communauté, nous devons nous entraider mutuellement.
De son côté, le député national Romain Landry Boussa a insisté sur le rôle de jeunes en politique, les appelant à maîtriser les règles du jeu afin de mieux s'imposer et évoluer dans ces domaines.
Pour aller de l'avant en politique, il faut comprendre les règles du jeu. Ils peuvent vouloir exercer certaines fonctions dans ce pays, mais ils doivent comprendre comment y arriver. Et le système que nous avons en RDC nous demande d'adhérer à des partis politiques afin que, au moment opportun où il y a des quotas, ces jeunes qui ont des compétences puissent être sélectionnés.
Une rencontre qui met en avant la coopération internationale et l'implication de jeunes comme levier essentiel de la paix en République démocratique du Congo.
La division provinciale des droits humains du Kasaï oriental fait peau neuve. Le ministre des tutelles Samuel Mbemba a inauguré les nouveaux bâtiments lors d'une cérémonie organisée ce jeudi à Mbujimayi en présence des autorités civiles et militaires de la province. Dans son allocution, ce membre du gouvernement a exprimé le vœu de voir cette infrastructure servir efficacement à la promotion et à la protection des droits humains au Kasaï oriental. Samuel Mbemba, ministre des droits humains, joint par Blaise Ndongala Mayanda.
La vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui place la promotion et la protection des droits de l'homme au cœur de l'action publique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent programme national de redynamisation des divisions provinciales des droits humains qui comporte trois volets, à savoir le renforcement des capacités des agents et cadres des services publics ainsi que des forces de défense et de sécurité en droits humains et en droit international humanitaire. Deuxièmement, la révision du cadre organique avec l'appui du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Et enfin, la construction ou la rénovation des bâtiments autonomes dédiés à la division provinciale des droits humains.
L'inauguration de ces bâtiments marque le début de l'implantation de nouveaux bureaux des divisions provinciales des droits humains à travers le pays. Après Mbujimayi, Samuel Mbemba est attendu à Kananga ainsi que dans d'autres chefs-lieux des provinces.
Actualité internationale.
Un hommage national et sous haute sécurité a été rendu ce 30 avril 2026 à Bamako en présence du chef de la junte malienne Assimi Goïta, au ministre de la Défense Sadio Camara, tué le week-end dernier lors d'attaques coordonnées des rebelles du FLA et des djihadistes du NIM.
L'invité.
Le directeur général de l'hôpital tertiaire Jason Sembe de Lubumbashi encourage la consultation prénatale et le respect du calendrier vaccinal en faveur des enfants en République démocratique du Congo. Invité de Radio Kapi, Dr Foreman Mabala appelle les parents à faire vacciner leurs enfants afin de renforcer leur système immunitaire et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Il assure par ailleurs que son établissement hospitalier a engagé une série de réformes visant à faciliter l'accès à des soins de qualité. Docteur Foreman Mabala s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général Foreman Mabala.
Bonjour monsieur le directeur.
Comment s'est fait la gestion des épidémies à l'hôpital général Jason Sendwe en cette période de la campagne de vaccination contre la polio, la rubéole et la rougeole?
Alors la gestion se fait de la façon passive et puis active. Dans la passivité, c'est la gestion d'abord de la valeur intrinsèque des enfants par la vaccination des routines pour éviter que nous puissions être débordés par des cas et autres. Donc ce sont des épidémies évitables et nous pouvons les faire et de façon active. C'est une prise en charge à la fois clinique et paraclinique pour essayer un peu d'épargner nos enfants. Les enfants qui viennent chez nous sont bien pris en charge et surtout dans un confort qui tient en sorte qu'ils puissent améliorer leur qualité.
Quelles sont les différentes réformes administratives et des travaux de modernisation en cours dans cet établissement hospitalier?
Réformes, il y en a. Nous avons d'abord commencé par les réformatages de l'homme, parce que c'est l'homme qui est au centre de la prise en charge. L'hôpital était réputé depuis un certain temps par un personnel peu conscient par rapport à l'approche des malades et autres. Nous avons jugé bon de faire en sorte que le personnel soignant ainsi que les professionnels de santé puissent être réformatés afin d'apporter le meilleur d'eux-mêmes et d'amener les soins. Et nous avons compris que nous devions intégrer à tout prix le système santé en République démocratique du Congo, en faire en sorte que le malade puisse être la priorité de nous tous en venant à l'hôpital. Et cependant, sur le plan administratif, nous avons privilégié d'abord l'accès aux soins que autre chose. L'hôpital étant un hôpital humanitaire, un hôpital tertiaire, et nous avons jugé bon de faire en sorte que les malades puissent d'abord bénéficier des soins et les urgences vitales puisse être prise en charge avant toute formalité administrative.
Que répondez-vous, monsieur le directeur général, de ceux qui pensent que l'hôpital connaît des difficultés dans la gestion des déchets médicaux?
Depuis un certain temps, nous avons, grâce au ministère national de la Santé et certains partenaires dont SARU, nous disposons maintenant d'un incinérateur industriel. Et cet incinérateur industriel nous permet de pouvoir gérer les déchets et notre personnel qui a appris à manipuler ces matériels est en train de faire en sorte que nous puissions pallier à cette difficulté. Mais étant donné que l'hôpital déverse sur le marché plus de 2 tonnes de déchets par jour, d'où nous recourons toujours aux autorités pour nous appuyer et nous donner les moyens nécessaires afin de pallier tant à l'évacuation que à la dissipation de ces déchets.
À part SARU, bénéficiez-vous de l'appui d'autres partenaires dont l'UNICEF, OMS?
Jusqu'à là, pas encore. Nous sommes pris en charge totalement par notre ministère national de la Santé, les personnes de bonne volonté et surtout les gens épris de paix qui savent que nos frères souffrent, qu'ils peuvent leur apporter quelque chose. Mais la porte reste grandement ouverte pour des collaborations futures avec des organisations internationales et surtout des partenaires. Et nous sommes là pour servir la République démocratique du Congo.
Quel est le message que vous lancerez à cet instant à toute la population des Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga, pourquoi pas de toute la République qui vous suit à travers les médias?
Le seul message, il faut vacciner les enfants pour éviter la survenue des maladies épidémiques évitables. Je crois que la consultation préscolaire chez les enfants serait la bienvenue pour que le parent suive de près les enfants dès la naissance jusqu'à l'âge préscolaire et pourquoi pas continuer à être ces enfants qui sont à l'abri de tous les dangers possibles qui pourraient les guetter. Mais l'hôpital Jason Sengue qui rêvait depuis Belle-Irette de sa plus belle robe, le seul message c'est de passer nous visiter, de venir se faire checker parce que l'hôpital tertiaire Jason Sengue a un personnel bien qualifié et nous voulons mettre à leur disposition l'accès aux soins et que ces derniers ne soient pas un luxe.
Docteur Foreman Mabala, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était notre invité, le docteur Foreman Mabala, qui s'entretenait avec Blaise Dongala Mayanda. Voilà qui met fin à ce journal du matin, préparé pour vous par Jude Mister Bilanda Kumar et mis en onde de maître par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à suivre sur notre site internet www.radiocapi.net.